Radio Kapi. Oh, Kapi.
Début ce mercredi à Lubumbashi de la campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite. Elle est menée par une équipe de médecins venus des États-Unis d'Amérique, membres de Novi Cardiac Alliance. 21 présumés bandits armés arrêtés ces deux derniers mois lors des opérations des patrouilles de la police ont été présentés hier mardi au commissaire général de la police nationale congolaise et au gouverneur de l'Ituri. La police a également récupéré 10 armes utilisées par ces présumés criminels pendant les cambriolages. Les leaders du Grand Katanga, invités à la réconciliation au appel de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, elle annonce la tenue en mai prochain d'un forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. Bonjour à tous. Tout d'abord, sachez que le président Félix Tshisekedi participe à partir de ce mercredi en début d'après-midi à Aqaba, une des stations balnéaires de la Jordanie, à des échanges bilatéraux avec quelques chefs d'État africains et chefs de gouvernement. C'est en l'occurrence Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi du Mozambique ainsi que le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa, organisé pour deux jours par le roi Abdullah II de Jordanie. Les discussions vont porter, à en croire la presse présidentielle, sur l'économie, le commerce et la sécurité dans l'un de ses volets consacrés à la lutte contre le terrorisme international. Le chef de l'État congolais arrive à Aqaba après sa participation à la journée consacrée à la RDC dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020. Bonne nouvelle pour les enfants cardiopathes de Lubumbashi. Début ce mercredi au centre médical Diamant de Lubumbashi de la campagne des chirurgies cardiaques pédiatriques gratuites. Elle est menée par une équipe des médecins venus des États-Unis d'Amérique, membres d'une structure dénommée Novi Cardiac Alliance. La fondation CM Diamant qui organise cette campagne invite les parents qui ont des enfants qui souffrent de maladies de cœur à se faire enregistrer pour sauver leur vie. Jean Gandou.
Pour cette première phase, 50 enfants ont été enregistrés. Le plus petit a 6 mois et le plus âgé 16 ans. Ils ont été diagnostiqués de plusieurs malformations cardiaques congénitales. 25 d'entre eux seront opérés au cours de 2 semaines. Le responsable du centre médical Diamant a indiqué que cette chirurgie coûte environ 30 000 $ américains. Cependant, pour cette campagne qui commence en ce jour, tous les frais sont pris en charge par la fondation CM Diamant. Pour le docteur William Novitch, responsable des Novice Cardiac Alliance, les parents doivent en profiter pour donner une chance de vie à leurs enfants au lieu de les abandonner à une mort certaine. Les enfants qui seront opérés bénéficieront également d'un suivi post-opératoire. Les 25 autres attendront la prochaine campagne qui interviendra dans 3 mois. L'objectif est de faire venir le médecin membre de Novice Cardiac Alliance 2 à 3 fois par an et cela pendant 5 ans. Pour cela, Karim Kardjin, le responsable du centre médical Diamant, sollicite l'accompagnement du gouvernement et des partenaires pour que cette mission soit menée au profit de tous les enfants malades qui devront également bénéficier de cette chirurgie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Province du Kwilu, les populations de certains quartiers périphériques de la ville de Bandundu éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable parce que non desservies par la régie des eaux. C'est le cas par exemple des gens qui du quartier Trois-Rivières situé dans la commune de Basoko. Dans un entretien à l'occasion de la journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année, certains habitants de ce quartier ont fait savoir que par manque d'eau, ils consomment même l'eau des puits non entretenus qui occasionne les maladies hydriques. Il demande à la régie des eaux d'installer des bornes fontaines pour les aider. Directeur provincial de la régie des eaux, Mutombo Aluda Mayo-Joseph, reconnaît cette situation. Il évoque les moyens financiers qui manquent. Irène Boma, reportage.
Si la population du centre-ville de Bandundu est bien desservie en eau potable par la régie des eaux, cela n'est pas le cas pour les habitants de certains quartiers périphériques de cette ville, à l'instar du quartier Trois-Rivières qui n'est pas raccordé. Ici, la population souffre pour accéder à cette denrée vitale et recourt carrément à l'eau des puits non aménagés. Ces habitants qui craignent pour leur santé en appellent à l'intervention de la régie des eaux.
Nous souffrons. Pendant la journée, l'eau ne sort pas dans les pompes fontaines. Nous sortons toujours minuit pour chercher de l'eau, loin de chez nous.
À pleine ville, nous avons toujours accès à l'eau depuis qu'on l'a créée avec le haut consort et l'eau qui n'est même pas entretenue. C'est pour ça que vous voyez que les maladies hydriques demeurent toujours dans notre quartier. À la région des hommes, je pense que si nous n'avons pas les tuyaux pour faire les raccordements, on pouvait même faire le forage public.
Le directeur provincial de la région des eaux Bandundu, l'ingénieur Mutombo Alouda, justifie cette situation par le manque de moyens financiers.
Nous sommes obligés d'aller vers tous ces points-là. Mais ce sont les moyens financiers qui nous manquent pour faire la politique. Donc le problème juste c'est d'avoir les moyens. Nous avons la main tendue vers la population, payer les fils que la facture.
Pour l'ingénieur Mutombo, ce problème de la desserte d'eau sera résolu si la population aide la régie des eaux en payant ses dettes de factures de consommation. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
À Kinshasa, les autorités de la régie des eaux ont dénoncé l'occupation anarchique de plusieurs sites de traitement de l'eau et de son réseau de canalisation de l'eau potable dans plusieurs quartiers de la capitale. C'était au cours d'un point de presse tenu hier à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Jonas Ntako, son directeur général, cite par exemple le quartier Adama dans la commune de Ngaliema où des immeubles sont construits sur le grand tuyau de canalisation de l'eau dans la commune de la Gombe. Il est au micro de Tatima Pougou.
Sur Adama, c'est un quartier que nous, on a vu pousser, pour ceux qui savent, à côté de la rivière Gombe. Dès que ça a commencé, on a encore écrit et on a saisi tout le monde. On a même amené des conseillers, des ministères et du gouverneur de la ville sur place. Je ne citerai pas les noms, parce que si vous vérifiez, vous allez voir que c'est un quartier des puissants. Et leur puissance a dépassé la nôtre en tant que régie des eaux. Et les gens ont construit. Sur Bandal, c'est encore un autre feuilleton, je peux dire. Ce monsieur, au moins, était intelligent parce qu'il est venu jusqu'au niveau de notre direction. Il a dit, je viens d'acquérir ma parcelle, mais on me dit qu'il y a une conduite. Alors, je vous propose de déplacer la conduite. Nous, on lui a dit, non, on ne peut pas déplacer la conduite. C'est une conduite de 600. Et vous nous avez trouvés. Nous sommes les premiers au occupant. Et c'est une servitude. Donc, nous, on ne va pas déplacer notre conduite. Nous, on vous conseille de ne pas faire cette construction. Ça devait être une polyclinique avec des malades dedans.
Au Nord Kivu, toutes les zones dangereuses en raison des risques éruptifs et des coulées éventuelles des laves sont cartographiées par l'Observatoire volcanologique de Goma. Cette structure est désormais en mesure d'offrir des conseils à tout citoyen qui veut investir ou construire à Goma et Nirangongo. Ces cartographies ont été présentées aux experts et autres invités à la conférence sur les volcans lundi dernier lors de la visite du centre d'information à l'OVG Goma. Aucun investisseur ne peut entrer dans la durée sans obtenir les avis autour de cette zone. C'est une des recommandations des experts en marge de la première conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga clôturée lundi 21 mars à Goma. Plus d'explications avec le directeur de l'OVG Adalbert Muindo au micro de Sifamago.
Lorsque quelqu'un arrive à Goma, il n'a pas l'impression que la population serait informée sur les risques volcaniques. Parce que ici à l'observatoire, nous avons des cartes qui définissent le couloir des laves. Et donc, pour d'autres pays, ça serait des zones moins denses où on placerait moins d'équipements possibles. Et parce que ce sont des zones dans lesquelles on devait désintéresser la population, mais pas interdire, mais au moins désintéresser la population à ce qu'ils puissent s'installer là-bas d'une manière dense. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cet appel à travers la conférence qu'il faudrait que les investisseurs viennent chaque fois à l'OVG, d'abord voir les zones qui sont plus menacées que d'autres, parce que le risque n'est pas constant, n'est pas uniforme pour toute la ville. À terme des quartiers, il n'y a pas de quartier qui est vraiment à l'abri de la coulée des laves. Néanmoins, il y a des zones qui sont plus sollicitées que d'autres.
Les coordonnées géographiques des zones des fissures sont à jour, souligne Adalbert Muindo, au directeur général de ce centre de recherche. À Bounia, 21 présumés bandits armés sont déjà arrêtés ces deux derniers mois lors des opérations des patrouilles ou d'interventions rapides de la police. Ils ont été présentés hier mardi au commissaire général de la police nationale congolaise et au gouverneur de l'Ituri. La police a également récupéré 10 armes qui étaient utilisées par ces présumés criminels pendant les cambriolages. Clarisse Ziindula.
Parmi ces présumés criminels figurent 9 militaires, un policier et des civils, dont 2 femmes poursuivies pour recel des biens volés. Ils opéraient avec des armes qui ont été récupérées par la police, ainsi que plusieurs biens volés, notamment des motos, des matelas et postes téléviseurs. La coordination de la société civile salue cette action, mais cette structure demande aux autorités de les transférer à l'auditorat pour qu'ils soient jugés en vue de lutter contre la criminalité dans la ville de Bounia. Didonné Lossa.
C'est une bonne action de mettre la main sur ceux-là qui sont accusés de tuer les gens, de tuer les gens. Notre souhait serait à ce moment qu'ils soient jugés et condamnés.
Le commissaire général de la police qui séjourne en Ituri rassure la population de la détermination de la police pour traquer tous les malfrats. Il ajoute que ces derniers sont chaque fois remis aux juridictions compétentes pour lutter contre l'impunité. Général Amouli Baïgwa Didonné.
Vous devez être déféré devant la justice qui, à son tour, est libre de faire son travail. Il faut qu'on vous condamne pour décourager les autres bandits et que la criminalité cesse dans cette ville.
Signalons que les forces de l'ordre ont intensifié les patrouilles dans la ville de Bounia depuis l'instauration de l'état des sièges en Ituri. Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, plus de 200 personnes, dont des femmes et des enfants de Luabala dans les territoires de Lupatapata, sont depuis hier mardi en sit-in dans la cour de la mairie de Mbujimai. Ces personnes ont fui la répression et l'attaque armée du chef Nkoji alias Chingeleji du groupement de Bakwachika dans les territoires de Dimbelenge au Kasaï central. Ces familles ont effectué plusieurs kilomètres en brousse avant d'atteindre Mbujimai. Certains membres de leur famille se sont égarés dans la brousse, affirme-t-il. Ils sollicitent une prise en charge humanitaire auprès des autorités et la sécurité pour retrouver leurs espaces ravis dans les foyers agricoles de Luabala par le chef Chingeleji et sa milice armée, suivant les explications de leur représentant Dilens Dilenga au micro d'Esther Ndalafina.
Nous sommes venus ici rencontrer le maire pour qu'il nous aide, qu'il rétablisse la paix pour que nous puissions rentrer chez nous vaguer librement à nos occupations, qu'il envoie les forces de l'ordre pour nous sécuriser afin que nous, en tant qu'agriculteurs, qu'on installe les forces de l'ordre à Canal pour que nous puissions mener nos activités paisiblement. Depuis que nous sommes venus ici, nous ne savons quoi faire et même où aller. Nos enfants risquent de mourir de faim. Nous sommes venus parce que nous sommes dans la souffrance. Nous n'avons pas de nourriture, nous manquons même de l'eau à boire. Nous sommes plus de 200 personnes ici. Nous ne savons pas où se seraient réfugiés les autres habitants. Tous les habitants ont fui. Le village est resté désert. Les policiers qu'on a déployés là se sont installés hors du village. Mais le problème, c'est au champ, là où nous devons mener nos activités. Il y a la milice de Chingeleji qui nous tue. Et c'est ainsi que nous avons décidé de venir ici rencontrer les autorités. Certains habitants sont même encore en route.
Contacté, le maire de Mbujimai affirme que le chef de division provinciale des affaires humanitaires a été mis à contribution pour identifier ces familles et leurs besoins afin d'en faire part à l'autorité provinciale. Signalons qu'il y a une semaine que les habitants de la contrée agricole de Luabala ont été attaqués par le chef de groupement des Bakwa Chika et sa milice qui ont fait une énième incursion. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 9 blessés graves, plusieurs maisons incendiées et un déplacement massif des habitants. L'une des faiblesses qui bloque les leaderships féminins en République démocratique du Congo, c'est le manque de solidarité entre les femmes elles-mêmes, a soutenu l'unique femme candidate à la présidentielle de 2018, Madame Marie-Josée Ifoku. C'était au cours d'une journée d'échange organisée hier mardi à Kinshasa entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, et une cinquantaine de femmes leaders d'opinion politique des médias de la République démocratique du Congo. Une initiative de la chef de la MONUSCO dans le cadre d'un programme d'accompagnement des femmes congolaises en perspective des échéances électorales de 2023. Marie-Josée Ifoku a fait part de sa propre expérience qu'elle a vécue lorsqu'elle avait décidé de se lancer dans la course au dernier scrutin présidentiel. Suivez un extrait de ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
J'ai décidé de mener ce combat dans la politique, un espace qui n'est pas facile pour nous les femmes. Quand je dis des fois que les femmes n'accompagnent pas les femmes, je sais de quoi je parle. J'ai été voir des grandes dames, j'ai été rencontrer des femmes quand j'étais candidate. Elles m'ont fermé la porte directement. Elles ne m'ont pas permis même de m'exprimer, même de présenter mon projet de société. Elles m'ont dit, mais tu ne nous as pas posé la question pour être candidate. Et je leur ai dit, mais et les hommes qui ont été, ils vous ont posé la question. Donc du coup, il y a eu cette porte-là qui a été fermée sans raison. J'étais la seule candidate. Donc je comptais beaucoup sur les femmes. Alors dès que j'ai vu ça et que j'avais compris certaines réalités en politique, j'ai vite compris que ma candidature devait être juste une tribune, une porte qui s'ouvre à moi, un premier essai, et ensuite je vais continuer mon combat.
Actualité internationale.
En Somalie, une fusillade est en cours dans la zone sécurisée de l'aéroport de la capitale somalienne, Mogadiscio, ont indiqué des témoins à l'AFP, alors que les islamistes radicaux Shebab ont affirmé mener une attaque sur le camp de Alan, qui abrite notamment des ambassades. Au 28e jour de l'invasion en Ukraine, ce mercredi 23 mars, les forces russes ne contrôlent ni Kiev, ni la grande ville portuaire du sud, soumise à un blocus depuis des semaines. Le Parlement français attend l'intervention en visioconférence du président Volodymyr Zelensky.
L'invité.
L'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi va organiser au cours du mois de mai prochain un forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. Thème choisi, frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours, unité dans la diversité et réconciliation dans la vérité des fils et filles du Katanga. L'annonce a été faite lundi par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Lubumbashi. Pour lui, il est plus que temps pour les leaders de l'espace Grand Katanga d'enterrer leur hache de guerre pour enfin se focaliser sur le développement de cet espace. Mgr Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Mgr Fulgence Muteba, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi organiser un forum de réconciliation entre Katangais?
Nous avons d'abord constaté que nos frères politiciens Katangais sont divisés, se perdent dans des polémiques inutiles. Pendant ce temps, il y a les intérêts cruciaux de la population katangaise qui ne sont pas pris en compte dans leur labeur. Et puis, deuxièmement, nous sommes des artisans de paix, d'unité, de la réconciliation. À tout moment, nous devons lancer un appel aux uns et aux autres pour qu'ils puissent s'entendre et qu'ils agissent dans la vérité. Et il y a une opportunité en or, c'est l'appel du Saint-Père, le pape François, qui va visiter notre pays au mois de juillet, qui nous a invités à nous réconcilier. Avec les évêques de la province et quelques chefs de confession religieuse, nous nous sommes dit, nous pouvons lancer cet appel pour que au moins nous puissions inviter cette catégorie de notre population à pouvoir enterrer la hache des guerres, à rester, bien sûr, chacun dans son parti politique. Mais nous prenons l'unité dans la diversité. Nous voulons que les gens puissent se réconcilier dans la vérité. De cette manière, nous pensons qu'ils pourront nous aider à résoudre les nombreux problèmes qui minent la vie de notre population.
Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif final?
C'est l'efficacité de l'action. Parce que, voyez-vous, par exemple, nous avons beaucoup de contrastes. Ici au Katanga, nous avons une province très riche, mais une population très pauvre. Comment expliquer ça? Ça signifie qu'il y a un problème. Si les gens se mettent ensemble, nous pensons qu'on peut commencer à trouver des solutions à nos problèmes. Nous voudrions également promouvoir une éthique de la fraternité. C'est le pape encore François qui a publié une encyclique sur la fraternité. Nous voulons traduire cet appel en acte en commençant par nos frères et sœurs politiciens. Dans les jours à venir, peut-être que nous pouvons cibler aussi d'autres couches de la population. Quand je parle de la population, c'est pas seulement les Katangais, mais aussi tous ces gens qui ont choisi le Katanga, les quatre provinces démembrées, comme terre d'accueil.
Quelles sont les grandes figures de la politique katangaises seront présentes à ces assises?
Nous espérons qu'elles vont être présentes. En tout cas, nous les avons intéressées et nous pensons qu'ils vont répondre à cette invitation. Ce serait vraiment notre souhait et nous pensons que, bien, ce sera une occasion pour que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on puisse privilégier ce que nous avons en commun pour le développement de la province du Katanga, le Grand Katanga, mais aussi pour le développement de la République démocratique du Congo, notre pays.
Est-ce que ce forum n'a pas de visée politique quand on sait que 2023 s'approche à grands pas? Est-ce qu'il n'y aura pas question de dire que tous les Katangais qui seront là doivent avoir un candidat commun?
Non, il n'y a pas de visée politique. En tout cas, nous faisons notre travail en tant qu'artisans de la paix. Nous n'avons pas du tout des intentions politiques.
Pourquoi avoir choisi seulement ce temps qui s'approche de 2023?
Il n'est jamais trop tard de bien agir. Nous pensons que c'est un moment important. Bien sûr que c'est pas tous les jours qu'on reçoit le pape, c'est pas tous les jours qu'on entend un pape demander aux Congolais de se réconcilier. Donc c'est une démarche importante, nous devons saisir la balle au bon.
Et cette réconciliation sera fondée sur quoi?
Nous allons identifier ce qui nous divise. Nous allons identifier également ce que nous avons en commun. Par exemple, il ne sera pas question de mettre fin aux 4 provinces du Grand Katanga, mais nous allons trouver des mécanismes de collaboration pour, n'est-ce pas, le développement, surtout au profit de notre population. Je prends un exemple. La SNCC, elle traverse pratiquement toutes les 4 provinces. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la SNCC puisse, n'est-ce pas, être véritablement un moteur de développement? C'est un exemple que je donne. Pour donner aussi des idées à la fois à nos gouvernements provinciaux, mais aussi au gouvernement central. Si nous ne proposons rien, c'est-à-dire que nous allons continuer à nous enfoncer dans la misère. Et donc, on va identifier ce qui nous unit et ce qui est noble et voir comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, nous serrer les coudes pour agir en synergie face aux enjeux cruciaux.
Considérant les fossés qui séparent les uns des autres, pensez-vous réellement que votre appel aura un écho favorable dans les camps qui sont divisés?
Par définition, un chrétien, c'est un homme optimiste. Par sur quoi un évêque, même si nous réussissons à réconcilier deux, je pense que c'est déjà beaucoup. Et j'ai foi, à la bonne volonté des uns et des autres. Et puis nous avons parlé avec des gens, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Dans le cadre de notre sollicitude pastorale, on a parlé avec responsables des sociétés, des opérateurs économiques, des députés. Apparemment, tout le monde est disposé finalement à mettre fin à toutes ces querelles qui ne nous mènent nulle part.
Monseigneur Félix Moutéba, je vous remercie.
Je vous en prie, Jean.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.